C'est le dernier attentat qui vient d'ébranler la France. Ce matin, à Nice, dans une église, une attaque au couteau a fait 3 morts.
Très clairement, c'est la France qui est attaquée. Si nous sommes attaqués, une fois encore, c'est pour les valeurs qui sont les nôtres. Et je le dis avec beaucoup de clarté une fois encore aujourd'hui. Nous n'y céderons rien.
En l'espace d'un mois, c'est la 3e attaque terroriste que connaît la France. Fin septembre déjà, un assaillant blesse grièvement 2 personnes à l'arme blanche. L'agression a lieu aux abords des anciens locaux de Charlie Hebdo. Puis, c'est Samuel Paty, professeur d'histoire, qui est décapité en banlieue parisienne.
Pour moi, il y a 5 ans, je me souviens, on était allé marcher et on disait « on est Charlie ». Bah là, maintenant, on est Samuel maintenant.
Des attentats à répétition qui ravivent une douleur que l'on espérait refermer avec le procès Charlie.
Nice, comme la France et peut-être plus que d'autres lieux de France, aujourd'hui est en train de payer un tribut beaucoup trop lourd.
L'attaque d'aujourd'hui intervient dans un contexte international extrêmement tendu. Ce matin, à Jeddah, en Arabie Saoudite, un vigile du consulat de France a lui aussi été attaqué au couteau. La France se situe-t-elle à nouveau dans l'œil du cyclone terroriste? Peut-on prévenir de nouvelles attaques? Et comment éviter que notre société ne se déchire?
Les derniers attentats ont surtout été commis à l'arme blanche. Est-ce que cela signifie que les réseaux islamistes n'ont plus les moyens de programmer des attaques de grande ampleur? Effectivement, avec ce qui s'est passé ce matin, on est très loin de l'organisation complexe des attentats de 2015. On est loin du suréquipement des frères Kouachi lorsqu'ils débarquent à Charlie Hebdo. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, Béghir Nabli?
Sur la signification exacte, plusieurs hypothèses sont possibles, mais incontestablement, le fait que ce mode opératoire se reproduise signifie premièrement que c'est le produit d'actes isolés, mais même si on peut les rattacher à des réseaux, puisqu'on a identifié pour l'avant-dernier attentat une ramification qui nous a amené jusqu'en Syrie.
Donc, il y a... Parler de l'auteur de l'assassinat de Samuel Paty.
Exactement.
Qui avait eu un contact avec...
Exactement. Donc on a d'un côté cette tentation d'isoler ces derniers attentats terroristes à la personnalité de ce qu'on appelle le loup solitaire, la figure donc du terroriste un peu isolé. Et en même temps, derrière, malgré tout, un soutien à la fois idéologique et d'un réseau, mais un réseau qui n'est pas aussi bien organisé que une espèce de fantasme qui voudrait que finalement, derrière chaque acte terroriste, il y a une opération bien préparée avec des moyens plus ou moins sophistiqués. On a là finalement des actes a priori qui ne reposent pas sur des moyens sophistiqués.
Alors en tout cas, cette menace terroriste en France, Xavier Delaporte, elle a toujours perduré, y compris ces 3 dernières années. C'est votre chiffre du jour?
Oui, le chiffre c'est 32. C'est le chiffre en tout cas qui a été donné par Gérald Darmanin en octobre dernier, le 4 octobre. 32, c'est le nombre d'attentats qui ont été déjoués sur le sol français depuis 2017. Gérald Darmanin précisait que tous ne sont pas d'origine islamiste, mais c'est une grande partie le sont. Alors, cette menace, certains disaient qu'elle avait disparu, Jean-François Colosimo. Est-ce que c'est juste qu'elle était devenue invisible?
Non, je crois que, bon, d'une part, effectivement, la reconquête de tout le pays syrien et irakien qui a été tombé aux mains de l'État islamique empêche momentanément, effectivement, d'avoir une base arrière très structurée qui peut prévoir des attentats très globaux. En même temps, on a une distillation universelle d'une idéologie haineuse, et celle-là, n'importe qui peut s'en emparer à n'importe quel moment. On a un précédent historique à cette sorte de ubérisation du terrorisme, bien avant Uber, c'est la Russie. Dans la Russie, en train de se décomposer avant 1917, entre 1900 et 1917, l'attentat était devenu une sorte de phénomène tout à fait immaîtrisable. On a eu 24 000 attentats sur 10 ans en Russie avant 1917, parce qu'on était face au même monde, qui était un monde de tension entre tradition et modernité, un monde de déracinement, un monde de décomposition politique. Et donc les attentats se sont multipliés et sont arrivés très précisément à ce que vous dites, à savoir qu'au fond, quelqu'un s'autodéclare terroriste sans avoir eu de lien considéré comme normatif avec une organisation. Donc par rapport à ça, si vous voulez, nous sommes dans une situation tout à fait impondérable, et le fait que la police, malgré tout, arrive à déjouer des attentats est tout à fait significatif d'une relative efficacité tout de même de nos moyens.
Là, Béliard-Naby, on est dans une période, une séquence bien particulière. On a 3 attentats en 5 semaines, hein, si on compte l'attentat, l'attaque de rue Nicolas Appert, l'ancienne adresse de Charlie Hebdo, l'assassinat de Samuel Paty et l'attentat d'aujourd'hui à Nice. 3 attentats depuis le début du procès des complices des assassins de l'attentat de Charlie Hebdo. On pensait que ce procès allait fermer une séquence. On a l'impression qu'il en ouvre une nouvelle.
Mais qui s'inscrirait dans une séquence plus longue en réalité. Mmh. Il y a une nouvelle séquence incontestablement parce que Charlie Hebdo en général et le procès en particulier cristallisent une charge symbolique importante. Et là, pour le coup, les djihadistes sont animés d'une forme de modernité. C'est-à-dire, ils captent les codes de notre modernité, c'est-à-dire notamment le fait qu'on est dans une société de la communication et que dès lors qu'on veut terroriser, ce qui est leur objectif, il s'agit notamment de savoir capter à la fois l'air du temps et les moments symboliques d'une société. Donc dès lors qu'on est là, un moment important, un procès autour des attentats de Charlie Hebdo et notamment autour de la liberté d'expression, il s'agit pour eux précisément de montrer à la fois que la résistance à la liberté d'expression existe encore et que l'incarnation du discours djihadiste est encore présente sur le territoire national. Donc il y a là un enjeu pour eux d'exister encore au moment même où l'État islamique en particulier est en état de faiblesse et de décroissance sur le territoire irako-syrien.
Mais Jean-François Colosimo, qu'est-ce qui est visé ? C'est la France laïque ou c'est la France catholique ?
Alors, d'abord, surtout écartons le spectre d'une guerre des religions, parce qu'il est évident que ni les musulmans de France, au sens de ceux qui pratiquent leur foi, ni les catholiques de France, au sens de ceux qui pratiquent leur foi, ne sont prêts à s'engager dans une guerre de religion. Mais la manière qui compte, c'est la manière dont l'ennemi vous désigne. Vous avez lu ça 1000 fois dans les communautés, dans les communiqués d'Al-Qaïda, de Daesh, les juifs et les croisés. Donc d'abord, il y a la réactivation d'un très lointain passé. L'Occident, c'est la croisade. Ensuite, il y a un passé plus récent, qui est celui de la colonisation, n'est-ce pas ? Qui, là aussi, bien sûr, nécessite un règlement commun des mémoires, mais peut être tout à fait instrumentalisé pour, je dirais, accroître la détestation, l'exécration et la haine. Et puis, vous avez la fameuse question de la laïcité, qui est vue et décrite. Alors là, c'est un problème qui n'est pas que franco-français, ça se passe pas sur l'Hexagone, qui est vue et décrite au Moyen-Orient comme en fait une espèce de machine pour produire de l'athéisme, qui est toute machine dirigée contre l'islam, qui est une machine qui serait censée en fait empêcher l'islam d'exister et surtout très très répressive. Là, évidemment, tout ça sont de fausses images ou des images détournées ou des images manipulées, des images instrumentalisées. Et dernier point, surtout, la France, elle est active au Moyen-Orient. Vous voyez ? Je veux dire par là, évidemment, M. Erdogan n'est pas responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Et d'ailleurs, il s'est précipité pour une fois, pour s'excuser.
Pour condamner l'attentat d'aujourd'hui.
Pour réchauffer un peu ses relations diplomatiques avec Paris, il était temps. Mais aussi pour dire surtout, écoutez, j'organise le boycott à Gaza, mais je n'organise pas d'assassinat en France. C'est ça son message d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Bon, et donc par rapport à ça, vous voyez, lorsque M. Erdogan, en fait, il n'est pas content avec la France parce que la France, elle a accompagné les navires grecs en Méditerranée lors de la crise de cet été en mer Égée où la Turquie se montrait tout à fait agressive. La France, elle existe aussi dans tous ces pays, non pas simplement au passé, mais au présent comme un acteur. Liban, Syrie, pensez à tout cela. Et donc, la détestation, c'est très facile de monter la détestation parce que très facile de dire, vous voyez, la France d'aujourd'hui et la France du Moyen-Âge croisé. C'est la même, c'est notre ennemi éternel.
Aujourd'hui, c'est donc une église à Nice qui a été visée, avec 3 personnes qui ont été assassinées. Ce n'est pas la première fois, Camille, que le terrorisme islamiste vise les catholiques en France.
On se souvient tous de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, le 26 juillet 2016. 2 hommes prennent 6 personnes en otage à l'intérieur de l'église, avant d'égorger le père Hamel, qui avait 86 ans. L'attaque est revendiquée par Daesh, et les 2 terroristes sont abattus lors de l'intervention policière. Mais bien sûr, on pense aussi à l'attentat manqué de Villejuif, dont le procès est en train de se dérouler à Paris. C'était en avril 2015. Un étudiant algérien radicalisé appelle les secours, après s'être tiré dans la jambe accidentellement. Saint-Laurent. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir voulu faire irruption dans l'église à l'heure de la messe dominicale. Sa maladresse met un coup d'arrêt au projet, mais une professeure de fitness qui passait par là malencontreusement est abattue. Aurélie Châtelain, le verdict de la cour d'assises est attendu pour le 5 novembre. Depuis ces deux événements, les mesures de protection des lieux de culte chrétiens ont été renforcées en France. Fin 2016, 178 églises disposaient d'une protection permanente. C'est une goutte d'eau parmi les quasiment 50 000 églises de France, matériellement impossible à toutes surveiller. Ce matin, par souci de sécurité, le maire de Nice, Christian Estrosi, a demandé la fermeture de tous les lieux de culte dans la ville. Immédiatement, l'archevêque de Rouen a réagi dans le journal La Vie. Nous ne devons pas céder devant la peur. Quelques heures plus tard, le président de la République a rejeté cette option. Est-ce que fermer des églises pour prévenir la menace terroriste, c'est une mesure pragmatique ou est-ce que c'est un aveu d'échec, Léon Nabli?
C'est incontestablement le genre de réponse auquel un certain nombre de responsables politiques cèdent plus globalement, à savoir qu'il s'agit de réagir déjà de manière trop rapide, je pense, sans prendre le temps de mesurer précisément la menace et, au-delà de l'acte, les raisons et les moyens de répondre à cette menace. Et plus largement, c'est le discours de la peur et le modèle de la société hobbesienne, comme on dit, à savoir qu'il s'agit d'abord de répondre par plus de sécurité, sauf que ce plus de sécurité s'accompagne le plus souvent par moins de liberté. Là, en l'occurrence, et paradoxalement pour les chrétiens, pour reprendre l'exemple que vous avez cité, en réponse à une attaque à l'encontre de croyants chrétiens, on propose, M. Estrosi propose, de fermer les lieux de culte catholique ou chrétien. Donc je trouve ça paradoxal et c'est une manière, alors là, de manière pragmatique aussi, de donner raison in fine aux djihadistes qui arriveraient à atteindre leur objectif.
Oui, mais vous voyez bien
ce discours de peur, ces réponses répressives.
Oui, mais vous voyez bien, il y a deux temporalités là. C'est-à-dire qu'il y a une temporalité immédiate de la sécurité, de la sécurisation, de la réaction. Voilà. Ce que vous préconisez, c'est une temporalité de réflexion, etc., beaucoup plus longue, qui s'accorde sans doute pas avec les réactions.
Mais d'une part, d'abord, d'une part, évidemment, pour des raisons sécuritaires, l'État peut intervenir là où il veut et même contraindre les corps religieux. Mais ce n'est pas tout à fait l'esprit de la laïcité, d'une part. La deuxième chose, quand même, dont il faut se rendre compte, c'est que l'Église catholique, regardez la dernière encyclique du pape, Tous Frères, ça commence par le fait qu'il invoque son amitié avec le grand moufti d'Al-Azhar, c'est-à-dire la plus grande autorité du monde sunnite qui est en Égypte. L'Église catholique, c'est l'organisme qui, au niveau mondial, au niveau européen, au niveau français et au niveau local des paroisses de Nice, mène le dialogue le plus soutenu avec le monde musulman. Donc, quand vous êtes, en fait, un grand gouvernant français, n'est-ce pas, eh bien, vous ne fermez pas les églises. D'autant plus, je vous le rappelle, qu'à la suite de Saint-Étienne-du-Rouvray, le dimanche qui a suivi, ce sont les évêques, les prêtres et les fidèles catholiques qui ont tenu à recevoir les musulmans pour très précisément désamorcer l'idée qu'il pourrait y avoir une guerre civile en France qui aurait une connotation religieuse. Et beaucoup de musulmans, qui sont effectivement ces musulmans qui sont inscrits dans leur foi et pas du tout dans une forme de déviation politico, je ne sais trop quoi. Ces musulmans se sont rendus dans ces églises et ça a été un moment d'apaisement national. À ce moment-là, la République était très désarmée, elle craignait le pire, n'est-ce pas? Après l'assassinat du père Hamel, elle craignait qu'il y ait des représailles. C'est l'Église qui a fait la paix civile.
Ça veut dire que ce spectre de la guerre civile que rappelait Jean-François Colésimo, qu'on évoque parfois dans ces périodes de tension, évidemment, au lendemain d'attentats sanglants, etc., on peut reconnaître qu'effectivement, depuis mars 2012 et l'ouverture de ce cycle terroriste par les assassinats proférés par Mohamed Merah, la France, heureusement, maintient sa paix civile et réagit justement de façon... elle est résiliente, de fait, la société française.
Incontestablement. Alors, non seulement il est bon de rappeler les efforts en matière de dialogue interreligieux, mais y compris dans la société civile extra-religieuse, il n'y a pas de véritable velléité, ne serait-ce que de calquer une lecture religieuse de ce qui se passe. On voit bien qu'on est plutôt dans le registre de la criminalité et de l'idéologie. Il ne faut pas nier la dimension idéologique de l'islamisme djihadiste. Et en même temps, les actes, dès lors qu'il faut les